Bonjour Marion Canet.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, l'info en direct jusqu'à 9h.
Europe 1, il est 7h.
Ça a été un week-end horrible, quoi, parce que ça fait 3 jours de lait supplémentaire qui va à la fosse.
La longue attente des éleveurs laitiers après l'incendie de Rouen, ils espèrent obtenir rapidement la levée de l'interdiction de commercialisation de leurs produits.
Il veut rassembler et renouer avec la victoire les ambitions de Christian Jacob, élu hier à la tête des Républicains. La stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance présentée ce matin, il s'agira notamment d'éviter le placement des enfants en développant des structures d'accueil temporaire.
Il va dire à la maîtresse qu'il est tout seul et du coup l'enfant sera placé. Alors que la maman, peut-être, elle n'avait juste pas de solution et elle s'est retrouvée à l'hôpital parce qu'il fallait qu'elle se soigne.
Europe 1 ce matin en Turquie, à quelques kilomètres des combats entre les forces d'Ankara et les Kurdes en Syrie, des combats qui font craindre le pire dans la région.
Ça me désole d'imaginer que Daesh puisse se reconstruire. Il y a un gros risque pour les Kurdes et en fait pour le monde entier.
La promesse d'une reconstruction en 5 ans, 6 mois après l'incendie de Notre-Dame, où en est le chantier? Enquête Europe 1 dans ce journal.
7h02, bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Mathieu Béliard, Marion Calais.
Vont-ils pouvoir à nouveau vendre leur production? Quand seront-ils indemnisés pour le manque à gagner? Des questions toujours nombreuses pour les agriculteurs normands, 18 jours après l'incendie de Lubrizol à Rouen.
Aujourd'hui, les derniers résultats d'analyse de l'Agence de sécurité sanitaire pourraient être décisifs pour les éleveurs laitiers à qui le ministre de l'Agriculture avait annoncé vendredi une reprise de la commercialisation avant d'être contredit par le préfet. Des rebondissements et une incertitude insupportables pour cette agricultrice qui s'est confiée à Théo Manval pour Europe 1.
Nous, ça a été un week-end horrible, quoi, parce que ça fait 3 jours de lait supplémentaire qui va à la fosse.
Comme tous ses collègues exploitants laitiers, Aline Catoire espère la fin du faux espoir ce matin. L'ANSES va-t-elle autoriser la reprise de la commercialisation du lait? Le ministère de l'Agriculture assure que oui.
C'est un espoir que l'on a. Par contre, nous, on a toujours un souci sur les exploitations, c'est les fourrages, parce que toutes les récoltes qui ont eu lieu depuis le 26 septembre sont consignées. On ne connaît pas les résultats d'analyse et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir les utiliser. Donc, produire du lait sans nourrir les vaches, ça va devenir compliqué.
Cette attente supplémentaire pour le fourrage, mais aussi les betteraves ou les pommes de terre, pourrait s'expliquer par les examens élargis à de nouvelles substances qu'a demandé vendredi l'Agence de sécurité sanitaire. Autre question ce matin, quid des 50 millions d'euros promis pour indemniser les agriculteurs? À ce stade, c'est l'interprofession, donc en partie les exploitants eux-mêmes qui se viennent en aide. Jocelyn Pesqueux de l'interprofession laitière de Haute-Normandie.
C'est exactement ça. C'est les exploitants qui s'auto-organisent, mais aussi les laiteries et depuis peu la grande distribution, pour un drame pour lequel ils sont pour rien du tout. Et là, il y a un vrai ras-le-bol.
Depuis l'incendie, 800 000 litres de lait sont jetés chaque jour, soit un préjudice total, estime l'interprofession, de plus de 5 millions d'euros.
Une précision signée Théo Manval pour Europe 1. Des agriculteurs appelés à se mobiliser aujourd'hui à Langouette, en Ille-et-Vilaine, alors que l'arrêté anti-pesticide du maire est de retour devant le tribunal administratif de Rennes.
Lui revendique son passé d'agriculteur. Christian Jacob, élu hier à la présidence du parti Les Républicains, plus de 62% des voix, loin devant ses concurrents Julien Aubert, Guillaume Larrivé. L'objectif désormais, les municipales, pour Europe 1, Aurélie Herbemont.
Maintenant, le plus dur commence. Parole des soutiens de Christian Jacob. La participation d'hier a été honorable pour un parti qui s'est craché aux européennes. 62 000 votants. Mais il y a 2 ans, ils étaient 99 000, 176 000 en 2012. Une érosion due aux défaites successives. Au nouveau patron de redonner du souffle, Nicolas Sarkozy lui a prodigué ce conseil. Rassemblé, Christian Jacob va s'y employer pour constituer son équipe d'ici 10 jours. Il a déjà parlé avec beaucoup d'élus mais n'a promis aucun poste à personne. Comme pour les municipales, confie-t-il, mes adjoints ne savent jamais avant l'élection qu'ils le seront. Une fois la nouvelle direction en place, il faudra gérer les investitures aux municipales les plus épineuses, Paris, Marseille, Nice. Ensuite, il faudra se pencher sur la présidentielle de 2022 avec une question, comment désigner le candidat? La primaire est dans les statuts, mais beaucoup ne veulent plus en entendre parler. L'objectif de Christian Jacob, poser les rails, on s'occupera de la locomotive. après.
Décryptage d'Aurélie Herbemont pour Europe 1. Le début d'une semaine européenne pour Emmanuel Macron avant un sommet à Bruxelles sur le Brexit jeudi et vendredi. Le président reçoit aujourd'hui les dirigeants de la Commission et du Conseil européen, notamment pour tenter de comprendre le rejet de la candidature de Sylvie Goulard la semaine dernière.
De l'art de faire plus avec moins. Le projet de budget 2020 arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
L'éclairage éco avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
L'éclairage éco, c'est avec vous tous les matins. Alors de ce projet de budget, il ressort une chose pour le moins étonnante. Les recettes de l'impôt sur le revenu vont augmenter malgré les promesses de baisse d'impôts. Comment est-ce que c'est possible ?
Oui, vous savez, en ces temps où on a l'habitude de douter de la parole publique, il va falloir effectivement des trésors de pédagogie à Gérald Darmanin pour expliquer ce paradoxe. L'impôt sur le revenu est censé baisser de 5 milliards d'euros l'an prochain et pourtant les recettes vont augmenter de 3 milliards. Alors, et ce pour de bonnes et de moins bonnes raisons. D'abord, deux bonnes raisons. D'abord, les revenus des Français augmentent, les salaires ont progressé, la situation de l'emploi est meilleure, donc plus de gens payent l'impôt sur le revenu. Et puis, deuxième bonne raison, le taux de recouvrement de l'impôt est meilleur, il atteint 99%, ça c'est grâce à l'impôt à la source, il y a moins de fraude, donc plus de recettes fiscales.
Oui, mais il y a aussi de mauvaises raisons. Nicolas, quelles sont-elles ?
Alors, la mauvaise raison, la principale, c'est que le barème de l'impôt sur le revenu est revalorisé chaque année du montant de l'inflation, alors que les revenus progressent plus vite. Ça veut dire que mécaniquement, eh bien, chaque année, l'impôt sur le revenu est un peu plus progressif. Il y a plus de contribuables qui passent d'une tranche à l'autre. Et puis à ça, il faut ajouter une subtilité un petit peu perverse de la réforme de l'impôt à la source. Comme vous savez, on est passé directement de l'imposition de 2017 à 2019. Or, le barème n'a été revalorisé que de 1%. Et dans le même temps, l'assiette de l'impôt a augmenté de 6%. Ce qui fait que, certes, les fameux 5 milliards de baisse d'impôt vont avoir lieu. Elles sont concentrées sur les deux premières tranches. Mais les autres ont l'impression qu'on leur raconte un peu des histoires en leur parlant de baisse d'impôts et ils n'ont pas tout à fait tort, effectivement.
L'éclairage de Nicolas Barré, tous les matins, directeur de la rédaction des Échos. Merci Nicolas.
Europe 1, il est 7h07, la suite du journal. Mathieu Béliard, Marion Calais.
80 millions d'euros l'an prochain et un plan présenté aujourd'hui pour lutter contre les violences faites aux enfants, avec des mesures d'accompagnement pour améliorer le sort des enfants placés. Ils sont plus de 150 000 dans l'Hexagone. Un plan qui comprend aussi des mesures de prévention.
Comme le développement des relais parentaux. On en compte 10 aujourd'hui. L'ambition serait de passer à 30 dès l'an prochain. Ces structures permettent un accueil temporaire des enfants pour éviter justement leur placement, pour soulager les parents. Pour Europe 1, Ève Roger.
L'accueil dure quelques jours ou même quelques semaines. Les enfants sont là, le temps pour leurs parents, alors c'est souvent une mère isolée, d'aller à l'hôpital se faire soigner ou simplement accoucher. Ça vaut aussi dans les moments difficiles, un problème de logement ou de séparation, quand on n'a personne autour de soi pour vous aider ou vous soulager. Et dans ces moments-là, le risque, c'est le placement de l'enfant, explique Thierry Couvert-Leroy, délégué national enfants et familles à la Croix-Rouge, qui gère la moitié des 10 relais parentaux qui existent aujourd'hui en France.
Si vous avez une maman qui n'a pas de solution, elle va laisser son enfant de 8 ans tout seul chez elle. L'enfant de 8 ans, il va réussir avec le micro-ondes à se faire à manger tutti quanti. Peut-être qu'à l'école, il va dire à la maîtresse qu'il est tout seul. Donc la maîtresse, elle va faire une information préoccupante, enquête, et du coup l'enfant sera placé. Alors que la maman, peut-être, elle avait juste pas de solution et elle s'est retrouvée à l'hôpital parce qu'il fallait qu'elle se soigne.
Aujourd'hui, les relais parentaux accueillent des jeunes enfants jusqu'à 12 ans, mais certains acceptent aussi les grands adolescents jusqu'à 18 ans. Ça leur permet de souffler, eux aussi, quand à la maison, ils s'occupent de leurs jeunes frères et sœurs parce que leur maman travaille.
Ève Roger, donc, sur ces relais parentaux qui devraient être développés aujourd'hui dans le plan présenté par le gouvernement. 250 000 euros supplémentaires devraient aussi être annoncés pour recruter des écoutants au 119, ce Allo Enfance en danger sur lequel les cas de maltraitance d'enfants peuvent être signalés.
Europe 1, il est 7h11, la suite du journal avec Mathieu Béliard et Marion Calais.
La cessation immédiate de l'offensive turque, c'est ce que demande la France après un conseil de défense hier soir.
Cela fait 6 jours maintenant, 6 jours qu'Ankara a lancé son opération dans le nord de la Syrie. En réponse, les Kurdes ont annoncé hier soir une alliance avec l'armée de Bachar al-Assad.
Une annonce diversement accueillie dans la communauté kurde installée en Turquie. Europe 1 est sur place à Diyarbakir. Reportage de l'envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini.
Diyarbakir a beau être éloignée des combats, elle vit l'offensive turque à la seconde près. Et quand l'annonce est faite de la fuite des proches de Daesh, le visage de Roselyne se ferme.
It's heartbreaking. They will gain the power.
Ça me désole d'imaginer que Daesh puisse se reconstruire. Ça m'effraie même. Ils sont si proches de nous et de ma famille qui est à la frontière à Nusaybin. Il y a un gros risque pour eux, pour les Kurdes et en fait pour le monde entier.
Un enjeu qui la dépasse, tout comme l'arrivée de l'armée syrienne en soutien. Elle ne comprend pas cette décision, au contraire de son amie Leyla.
Je suis heureuse de ce choix. En fait, avant que les Kurdes de Syrie ne soient éradiqués, les forces kurdes prennent un risque, celui d'accepter l'aide du gouvernement syrien. S'ils le font, c'est en quelque sorte pour protéger notre nation. Et pour le moment, c'est le meilleur choix.
Pour le moment, dit-elle, une remarque qui trahit à la fois la peur de voir les Kurdes à nouveau abandonnés et le sentiment de s'allier à Bachar al-Assad par défaut. Diyarbakir, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et depuis son lancement, l'offensive turque aurait fait plus de 150 victimes et déplacé plus de 130 000 personnes.
Et c'est donc sur fond de tensions diplomatiques que la Turquie affrontera ce soir la France en match de qualification pour l'Euro 2020. Coup d'envoi 20h45, soirée spéciale sur Europe 1. Une victoire pourrait qualifier les Bleus.
Une épaisse fumée et des flammes au-dessus de Paris. Demain, cela fera six mois que Notre-Dame de Paris a brûlé. Emmanuel Macron avait promis une reconstruction en 5 ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est l'enquête Europe 1 ce matin.
Avec vous, Pauline Jacot, bonjour.
Bonjour.
Le constat d'abord, c'est que le chantier tourne au ralenti.
Oui, on entend bien quelques bruits de perceuses, on voit bien les ouvriers entrer et sortir du chantier. Mais si vous restez une journée à proximité, vous êtes forcé de vous en rendre compte. On est très loin du dynamisme du début. Presque rien n'a vraiment avancé depuis juillet. Au début, on devait pallier l'urgence, dit un ouvrier. Mais maintenant, on a l'impression que tout est bloqué. Un sentiment qui semble partagé parmi les ouvriers, les chefs de chantier et les architectes.
Alors pourquoi est-ce que ça bloque, Pauline ?
Eh bien, c'est à cause du plomb pour assurer la sécurité du personnel. Les procédures sont très nombreuses, très rigoureuses, trop quelquefois selon certains. Un petit exemple, à chaque fois qu'un ouvrier passe d'une zone sale à une zone propre, c'est-à-dire une zone sans plomb, il doit enlever son masque, sa combinaison, ses gants, prendre une douche, ça dure 10 minutes et ça peut être 6 fois par jour. Chaque semaine, on a l'impression qu'ils inventent une nouvelle règle, dit un chef de chantier, la dernière en date, l'interdiction d'utiliser les escaliers au-delà de 13 mètres. Mais les monts de charge n'arriveront pas avant 5 ou 6 semaines, les ouvriers ne peuvent donc pas monter pour le moment tout en haut de l'échafaudage.
Et il y a aussi une question de sécurité, hein, Pauline, car l'échafaudage menace toujours de s'effondrer.
Oui, un architecte me l'a dit, c'est vraiment notre source de stress numéro un. Il faut être plus souple sur les règles pour éviter un drame, dit-il. Une frustration ressentie tous les jours par le recteur de Notre-Dame de Paris, Mgr Patrick Chauvet, agacé par toutes ces procédures.
Je comprends très bien qu'on soit prudent. Je pense qu'il ne faut pas non plus que ça soit excessif, parce que ça crée une tension. Donc j'attends avec impatience que l'État, le préfet, prenne une décision pour alléger un peu. Il faut qu'on ne tarde pas trop pour que on ne dise pas un jour, bah tiens, l'échafaudage est tombé, on aurait pu éviter.
Et souvent, c'est l'attitude de l'inspection du travail qui est pointée du doigt, très tatillonne sur les règles. On est sans cesse surveiller l'enceint responsable. L'inspectrice, dit-il, vient 3 à 4 fois par semaine. Mais du côté de l'État, hors de question de revivre un nouveau scandale. Le mot d'ordre, c'est donc la rigueur. Mais une rigueur qui a tendance à exaspérer les ouvriers.
Et Pauline, que répond-on du côté de la préfecture qui est responsable du chantier ?
Eh bien, en résumé, deux mots, contrainte, nécessaire. Il faut assurer la sécurité, c'est le droit du travail, nous dit-on. La préfecture a tout de même décidé de lâcher un peu de lest. Des sanitaires et des points d'eau seront installés cette semaine dans les zones polluées pour éviter aux ouvriers d'avoir à prendre une douche à chaque fois qu'ils sortent de la zone.
Enquête Europe 1, signée Pauline Jacot.
Merci beaucoup. C'était le journal de 7h avec Marion Calais. Un nouveau journal à 7h30 tout à l'heure avec Hélène Zélani.